Et le dernier volet de la réflexion que nous nous sommes proposés, de ma réflexion, parce que ça fait déjà quelque temps que je m'intéresse à ce problème-là, personnellement, et aussi de notre réflexion, parce que je vous en ai fait part et j'ai eu quelques retours de ce que nous avions dit à travers des conversations enrichissantes. Aujourd'hui, je me propose d'aborder le problème du développement. De la façon suivante, voilà comment le problème peut se poser sur un plan pratique. D'une part, pour le chrétien est né de nouveau et en principe, il est appelé à croître. C'est un premier aspect. Le deuxième aspect qui est négatif, on s'aperçoit dans la fréquentation des chrétiens et dans le rapport des chrétiens entre eux que bien souvent, leur comportement est assez infantile. Il n'y a pas besoin d'être très psychologue pour le voir. Et c'est une réaction qu'on a souvent, de la façon dont ils se mettent en colère, la façon dont ils boudent, la façon dont ils parlent. Alors, que se passe-t-il? Est-ce que, par hasard, les processus de croissance ne seraient pas possibles? Ou s'ils sont possibles, dans quelles conditions? Et est-ce que c'est leur vie spirituelle qui est bloquée? Parce que nous pensons qu'il y a une vie spirituelle. Ou encore, est-ce que c'est une interférence de leur caractère, c'est-à-dire de leur personnalité naturelle, qui empêche la croissance? Et dernier problème, est-ce qu'une conversion à une croissance spirituelle ne devrait pas, ne peut pas entraîner aussi une croissance sur le plan de la personne et du caractère? Autrement dit, un développement. Alors, je vous propose une division suivante pour que vous puissiez un petit peu suivre la discussion. La division sera peut-être un peu arbitraire, mais enfin à l'avance je vous le dis. D'abord nous envisagerons le problème des stades, ce que sont les stades, comment on peut définir un développement au niveau biologique, au niveau psychologique et au niveau de la foi. Deuxièmement, nous nous demanderons ce que c'est que la maturité. Quand il y a une trajectoire, il faut bien un but. Et ce but, il est clair, c'est celui d'arriver à l'état d'homme fait, comme nous trouvons dans l'épître aux Éphésiens, mais de toute façon à la maturité, puisque c'est le but de la croissance de l'individu. Deuxièmement, nous envisagerons les Écritures les références à l'enfance, en opposition à la maturité. Dans quel cas ils apparaissent et dans quelle mesure ces références nous serons un thème de réflexion, un départ de réflexion sur ce qui se passe si nous y restons. Troisième point, nous verrons les conditions de la croissance spirituelle. Et dans cette rubrique, j'ai envisagé quatre sous-paragraphes. Le premier, c'est l'expérience de base, en analogie avec la croissance psychique. Deuxièmement, le problème des modèles d'identification. Je les ai appelés comme ça, on les justifiera en cours de route. Troisièmement, l'allure et le rythme de la croissance. Et finalement, la croissance comme relation, en tant que relation. Et en conclusion, nous verrons comment nous pouvons adapter ou utiliser ces diverses remarques dans une perspective de construction ou de reconstruction ou une perspective d'aide. Et c'est ce que j'ai appelé la perspective pastorale ou ecclésiastique, qui sont des mots très techniques, mais qui en fait sont c'est une perspective d'éducation ou de rééducation, qui peut aussi s'appeler une perspective thérapeutique, suivant la situation où nous nous plaçons. Nous sommes tous familiarisés avec la notion de croissance parce que le corps croît. On part de l'enfance et puis on arrive à l'âge adulte. On sait qu'on passe par des différents échelons. On sait sur le plan biologique que cette croissance n'est pas linéaire, uniforme. Elle passe par des crises et des stades. Il y a la puberté, par exemple, et puis ensuite, la puberté est un stade essentiel, et la fin de la croissance qui débouche sur l'âge adulte et une période de palier pendant laquelle est toute la période, la vie génitale, la période de reproduction. Dans une perspective très animale, l'homme naît pour se reproduire. C'est un animal qui naît, qui se reproduit. La chose est plus compliquée au niveau de la croissance psychologique. Et tout le monde, c'est de notion courante, a remarqué qu'il peut y avoir un synchronisme entre la croissance psychologique et la croissance biologique. Des gens deviennent adultes mentalement en même temps qu'ils deviennent adultes physiquement. En cela, il n'y a rien d'étonnant. Mais ça ne se remarquerait pas si l'inverse ne se produisait pas, c'est-à-dire que des gens grandissaient physiquement et puis finalement restaient, avaient des conduites infantiles. Autrement dit, on sent très bien, confusément, même sans avoir fait de psychologie, qu'il y a quelque chose qui a cloché dans leur développement. Ils sont restés enfants. Ils se sont arrêtés quelque part. Et c'est là qu'une étude plus précise nous conduit à envisager un certain nombre de stades. Et à l'intérieur du psychologique, pour s'y référer, les psychologues ont l'habitude de distinguer l'intellectuel, c'est-à-dire les fonctions cognitives, le développement de l'intelligence et les références modernes qui permettent de rendre compte du développement de l'intelligence. Ce sont les références à Jean Piaget, qui est bien connu de tous les psychologues ou médecins ou les gens qui s'occupent d'enfants. Il a délimité les différents stades par lesquels l'intelligence passe pour arriver au stade qu'il appelle l'intelligence hypothético-déductive, c'est-à-dire l'intelligence mathématique qui permet une facilité, une réversibilité dans les phénomènes, dans les opérations. Bon, on laissera de côté cet aspect génétique de l'intelligence, parce que cet aspect est très important, bien sûr, pour faire des études. Mais on a demandé un jour à Freud, qui lui s'est surtout occupé du développement affectif, il dit, mais enfin, maître, vous ne parlez jamais de l'intelligence. Il dit, vous savez, on s'en sert si peu. Et effectivement, sorti des études, où on s'en sert beaucoup, on l'exerce beaucoup, dans la vie professionnelle, on l'exerce un peu moins, et dans la vie courante, la vie relationnelle, on s'en sert à peine, voire pas du tout. Par contre, les fonctions affectives sont, elles, très présentes et très utilisées. On vit dans des drames ou des microdrames perpétuels. On est en relation avec les gens. Alors là, je passe tout de suite, sans faire la genèse des découvertes, à la perspective psychanalytique, c'est-à-dire le système psychologique que nous a offert, que nous a fabriqué la psychanalyse. Et il est intéressant parce qu'il rend compte, dans la pratique, les éducateurs en sont témoins, même s'ils ne sont pas psychanalystes, que c'est un système utile. En effet, Freud a découvert, et ses successeurs l'ont vérifié, que le psychisme de l'enfant, sa vie affective, est rythmé par ses modes de relation à l'univers. Et ces modes de relation au monde extérieur sont finalement ses sens. Et ces sens, vous savez que les sens sont très limités, il y a les cinq sens, les yeux, les oreilles, la peau, le goût. Et ce qui domine dans la première, tout à fait à l'aube de la vie, c'est d'être nourri par la mère, et d'où l'importance de l'oralité. Au début de sa vie, l'enfant est un tube digestif, et c'est une fonction d'abord. Et l'intérêt de la psychanalyse, c'est d'avoir découvert que non seulement c'était une fonction, mais c'était aussi une source de plaisir. Et c'est là que les psychanalystes font débuter la sexualité qui procure du plaisir. Ça s'appelle une fonction d'étayage. La fonction nourrit l'enfant et en même temps, elle est un mode de relation à l'objet sous une forme de plaisir. Et c'est évident, quand on observe un nourrisson, on voit qu'il est content ou qu'il est mécontent des soins qu'il reçoit. Parallèlement avec la nourriture, il y a les soins maternels et vous avez le développement de toutes les fonctions tactiles. L'enfant est touché et manipulé et la mère le fait avec amour. Et en ce faisant, elle stimule toutes ses fonctions. On a discuté avec des puéricultrices ou des infirmières de ce problème-là, et on était tous au courant d'une expérience qui a été faite sur les nouveau-nés. Les nouveau-nés qui avaient été mis en couveuse, enfin des prématurés. Et il y avait deux séries de prématurés. Il y a ceux qui étaient normaux, c'est-à-dire qui n'avaient pas de maladie, et puis ceux auxquels il y arrivait des pépins, qui étaient malades. Ceux qui étaient malades, il a fallu les soigner, leur faire des piqûres, leur faire toutes sortes de choses, les manipuler. Et on s'est aperçu que ces pauvres gosses, qui étaient en principe affectés de troubles, se sont développés en fin de compte plus vite que les autres. Il s'avère que les soins avaient entraîné une attention particulière et que la manipulation avait suscité chez eux toutes ces forces d'adaptation à la vie. Ils avaient réagi à ça et avaient rattrapé beaucoup plus tôt que les autres le retard normal habituel des prématurés. D'où l'importance des soins et des contacts. Des soins déjà, que le soin commence par le corps. Une contre-expérience aussi qui a été éclairée à la réflexion, c'est qu'au début du siècle, on a découvert la sepsie. On mettait les enfants trouvés ou les enfants abandonnés dans des crèches, dans toutes les conditions d'hygiène voulues. Tout était net, absolument sans microbes. Et on leur donnait le biberon avec des masques et tout était désinfecté. Mais ils n'étaient jamais touchés. Or, ces gosses mouraient comme des mouches. Et on s'est aperçu que ce qui était important, ce n'était pas tellement l'absence du microbe, c'était la présence de soins de manipulation. Et à la suite de ça, plusieurs années plus tard, on s'est aperçu de l'importance du maternage. Est-ce qu'un psychologue que vous connaissez peut-être, un psychiatre, Winnicott, anglais, a appelé le holding, la façon dont on tient l'enfant, c'est très important dans sa progression. Vous voyez que l'importance déjà, dès le début de la vie, non seulement des fonctions de nutrition, mais aussi des fonctions de relations. De relations tangibles, effectives à l'autre, en l'occurrence à la mère ou à son substitut. Donc au niveau de l'oralité, pendant l'époque orale, il se passe beaucoup de choses avec la bouche. La bouche nourrit et en même temps elle engloutit. Et quand vous psychanalysez des enfants ou même des adultes, que vous remontez assez haut à l'oralité, vous avez toujours ces fantasmes d'incorporer ou de faire disparaître. Mais là, il y a une contradiction importante, une ambiguïté pour l'enfant qu'il faut qu'il dépasse, c'est de faire disparaître le bon objet qui lui fait du bien. Alors déjà, se pose déjà une problématique qui n'est pas facile à résoudre. Il la résout parce que la nature est bien faite. Mais il y a déjà une contradiction. Avaler ce qui fait du bien, faire disparaître ce qui fait du bien. Et c'est ce qu'on a stigmatisé sous le nom de sadisme oral. Effectivement, il y a des enfants qui mordent beaucoup, il y a un sadisme oral développé. Vous voyez déjà apparaître à ce niveau-là une certaine forme d'agressivité, et une certaine forme de plaisir et une possibilité de relation nuancée avec l'objet, suivant qu'on va avoir peur de détruire, désirer détruire, quelquefois même détruire, ou refuser la nourriture, ou refuser la relation. Refuser la nourriture, c'est le problème de l'anorexie. L'anorexie, c'est un mode de relation qui commence très précocement dans la vie, un mode de relation à la mère. On n'entre pas ni dans son traitement, ni dans sa signification, ce serait bien trop long. L'enfant se développe biologiquement, physiquement, et il arrive rapidement si on peut dire, au bout d'un temps à peu près toujours le même, à l'âge où il a des dents, à l'âge où il est sevré, et à l'âge où il peut marcher, et à l'âge où il acquiert un certain nombre d'habitudes, ce qu'on appelle les disciplines sphinctériennes. C'est ce qu'on a stigmatisé par l'époque anale, le stade anal. Alors, ce stade anal, qui est un stade objectif, net, qu'on voit, c'est l'époque où la mère signifie à l'enfant ou l'éducateur, maintenant c'est fini mon petit gars ou ma petite fille, tu ne feras pas ce que tu veux où tu voudras, mais tu feras ce que je voudrais où je voudrais. Alors s'instaure un conflit, ouvert ou latent, entre la volonté de l'enfant, le désir de l'enfant, ou la volonté de l'enfant, le plaisir de l'enfant et le désir de la mère. et quelquefois ça peut durer longtemps. Alors là intervient bien sûr le perfectionnisme du parent et la plus ou moins grande docilité de l'enfant. Et effectivement, il y a toute une dialectique de la relation à ce moment-là. En même temps, l'enfant a dû renoncer à un certain nombre d'avantages de la petite enfance où il était davantage dorloté pour avoir un peu plus d'autonomie. Il est plus souvent laissé seul à lui-même et il a des objets qui lui permettent une certaine maîtrise. Comme il maîtrise avec ses mains, il commence à maîtriser avec ses mains, après avoir maîtrisé avec ses sphincters, parce qu'il arrive finalement à se discipliner, à ne pas faire toutes les fois qu'il a envie, il attend, il se contrôle. Il contrôle. Et les enfants qui se contrôlent trop peuvent quelquefois trop se contrôler dans la vie et contrôler trop de choses. Vous voyez que le contrôle a sa genèse là, dans les possibilités de contrôle sphinctérien. Et on a établi une caractérologie à partir de ces catégories freudiennes. On a le caractère anal, ou celui qui retient trop, ou celui qui prodigue trop. Vous voyez, il y a toujours toutes les possibilités de travail et de nuance entre ces deux excès, ou trop donner, ou ne pas assez donner. En même temps, non négligeable, on en parle moins en psychanalyse, mais enfin les éducateurs le savent, il y a l'accession à la locomotion. Non seulement il va avoir la maîtrise des objets qui sortent de son corps, la maîtrise des objets qui tombent dans ses mains, mais un début de maîtrise de l'espace. Il va pouvoir se déplacer, il va pouvoir voir les choses sous un autre angle, et ces déplacements vont être à l'origine d'une nouvelle liberté, mais en même temps de nouveaux interdits. Parce qu'il y a des choses qu'il ne pourra pas faire, des espaces qu'il ne pourra pas parcourir et des objets qu'il ne pourra pas atteindre. Donc tout progrès s'assortit de plaisir, mais aussi de nouvelles interdictions. La vie n'est pas facile. À cette époque-là, qui est l'époque donc de la maîtrise, il y a le grand problème des identifications au père ou à la mère suivant le sexe. De toute façon, ça se passe. Puisque c'est avec ces deux personnages qu'il faut travailler, c'est les premiers qu'on a sous la main, c'est donc avec eux que se produisent les premiers conflits et les premiers refus, et aussi les plus grandes et les premières gratifications. C'est les deux premiers objets d'amour et les deux premiers objets de haine. Et pour cause, ils sont là, on ne peut pas faire autrement. C'est pour ça qu'ils ont tant d'importance. D'autant plus que la mère, qui était on ne peut plus importante au début de la vie, et qui garde toujours, en fin de compte, dans le tréfonds de l'inconscient, la même puissance, c'est cette espèce d'être monumental, par la taille, qui peut distribuer à la fois tout le bonheur ou tout le malheur. Dans la petite enfance, c'est elle qui donne à manger, c'est elle qui donne les soins, elle est toute puissante. C'est elle qui fait les sourires, c'est elle qui donne le confort, et quand elle s'en va, c'est elle aussi qui cause les frustrations. Elle est à la fois bonne et à la fois mauvaise. Elle crée le plaisir et elle crée l'agressivité quand elle suspend son intervention. Donc, au début de la vie, le personnage maternel est on ne peut plus important. Et c'est pour ça, parce qu'il est important, que les premiers débats avec la mère sont aussi dramatiques. Parce que c'est par rapport à un personnage important et tout-puissant qu'il va falloir imposer son identité, autrement dit, son indépendance, son autonomie. Et là, l'identification au père et l'intervention du père intervient, à la fois positivement et à la fois négativement. Positivement, le père est un interdicteur, enfin une aide, dans la mesure où, quand la mère est mauvaise, on peut aimer un troisième personnage et qui vous console. Mais aussi, c'est un empêcheur de tourner en rond. Parce que tant que la mère s'occupe du père, on ne sait pas trop pourquoi, on ne veut pas éclaircir et on ne peut pas à cet âge-là, l'enfant est seul. Il éprouve déjà l'abandon au profit d'une tierce personne et il faut qu'il l'assume. Et c'est là, dans cette espèce de triangulation, qu'on appelle le complexe d'Édipe. Le complexe d'Édipe, finalement, est difficile à comprendre quand on projette sur lui une sorte d'anthropologie d'adulte, d'anthropomorphisme d'adulte, mais il faut essayer de comprendre comment l'enfant aime L'enfant aime passionnément, mais à sa façon. L'enfant qui naît fait plaisir à la mère, et pour elle, il est un objet aimé. Il est beau, et elle le lui signifie de multiples façons, en gazouillant avec lui, en jouant avec lui, en l'embrassant. Lui ressent toute la joie, et il y répond aussi par le rire et le sourire. Il y a une sorte, souvent, une plénitude, un couple parfait d'une mère qui est heureuse d'avoir un enfant, et d'un enfant qui est heureux de jouer avec sa mère. Donc ce sont de bons moments, et qui, une fois qu'ils ont été expérimentés, devraient ou pourraient peut-être durer toujours, on ne sait jamais. Et c'est là le grand amour. Et la mère a un désir pour l'enfant, et l'enfant a un désir pour la mère, c'est ça l'amour. Et quand vous avez des interruptions parce qu'il y a un concurrent immédiat, que ce soit un frère, une sœur ou bien le père, on comprend très bien que déjà apparaissent la jalousie, la dépression et l'abandon. C'est vécu très tôt. Les structures d'accueil de la dépression sont présentes très tôt chez l'enfant, même avant ça. C'est ça finalement, dans une certaine mesure, le complexe d'Édipe, si vous voulez, très schématiquement. Une fois que l'enfant, le petit garçon a compris que la mère, c'était pas pour lui, et la petite fille a compris que le père, malgré toute l'admiration qu'elle a pour lui, ne lui appartient pas, qu'il appartient à quelqu'un d'autre, et c'est le premier deuil, le premier renoncement qui permet à l'enfant de cheminer dans sa vocation de personne indépendante qui choisira d'être comme et non plus d'avoir. Vous voyez, il substitue à l'avoir l'être. Il n'aura pas, mais il sera. Ce sont les premières identifications secondaires. Ce stade génital, finalement, inaugure la vie d'adulte. C'est à ce moment-là que l'autre n'est plus vécu comme un complément nécessaire, il n'est pas seulement fonctionnel, il n'est pas comme une partie de soi, c'est comme une personne qui a ses droits, qui se dérobe et avec laquelle il faut composer. La relation de type dominateur disparaît pour une relation de type complémentaire d'égal à égal. Ensuite, l'enfant, à ce moment-là, termine l'élaboration de la notion d'échange. Il verra qu'il y a autant de plaisir à donner qu'à prendre, lui peut donner et l'autre peut donner, il y a des possibilités d'échange. Si les choses se sont bien passées, il arrivera à une certaine souplesse des relations sans trop d'angoisse. Sans trop d'angoisse d'être frustré, d'être abandonné, d'avoir à faire le deuil de ses objets. Finalement, à travers toutes ces expériences, il arrivera à ce qu'on appelle la réalité. La réalité, c'est cesser de se faire d'illusions sur ce que sont les autres et sur leurs fonctions. Par exemple, une illusion qui est entretenue et assez souvent accessible en thérapie et même dans la vie, c'est cette illusion que le petit garçon ou la petite fille pourrait se marier avec son parent. Et les petits-enfants le disent souvent. D'ailleurs, j'aimerais bien me marier avec toi. Ou bien ils disent au père, comme mes fils, tiens, quand tu seras mort, on pourrait se partager tes cravates. Et puis il me faisait voir quand on passait devant le cimetière, tiens, tu vois, quand tu seras mort, on te mettra dans une petite boîte et puis derrière ce mur. Mais avec un bon sourire épanoui, pour eux, j'étais déjà entré dans une sorte de dialectique de la disparition. On imaginait une situation où je ne serais pas là. Et pour l'enfant, il faut bien dire que la disparition, ce n'est pas une disparition définitive, c'est une disparition pour prendre la place, mais en même temps, on ne voudrait pas tuer un petit peu, mais pas tout à fait tuer. C'est là où la mort n'a pas toute sa réalité, parce qu'elle n'est pas tout à fait la mort. La mort telle que nous la concevons dans sa réalité. C'est une mort fantasmatique. C'est à ce stade-là, avant d'arriver à la croissance, on n'en a pas parlé, mais que les interdictions sont importantes, doivent être assumées. Les interdictions, on les avait vues à propos d'Adam et d'Ève, elles apparaissent comme une barrière nécessaire pour protéger le narcissisme. Le petit garçon pense qu'il a fait l'expérience, qu'il est tellement beau et tellement agréable, qu'il a tout ce qu'il faut pour faire plaisir à la mère. Et il s'aperçoit que quelqu'un de plus grand, plus beau et plus fort lui fait davantage plaisir que lui. Alors du coup, c'est quand même une blessure narcissique importante de se voir préférer quelqu'un qui fait plus de poids que lui. Ça se traduit d'une autre façon par un problème de taille du sexe. C'est matérialisé comme ça dans les fantasmes, mais ça peut très bien se comprendre au niveau de la différence de taille. Et cette différence de taille, qui pourrait être vécue sur un mode dépressif, vous savez, comme le renard et les raisins, ils sont trop verts, dit-il, et bons pour des goujats, le petit enfant préfère vivre ça autrement. Il dit, ce salaud-là, il m'interdit d'avoir ce dont j'ai envie. Et c'est là qu'il a une agressivité qui se développe contre la personne qui barre le chemin, non pas parce par l'aveu qu'il est moins fort, mais par la supposition qu'il lui interdit. Il dit, c'est pas parce que je peux pas, c'est parce qu'il ne veut pas. Vous voyez, déjà un embryon de projection. Et c'est là où apparaît toute la problématique agressive du complexe d'Édipe. Donc, apparition de la loi, construction de la loi, de toute façon, elle se construit comme ça, et elle se construisait avec la mère quand elle se soustrayait au désir, mais affirmation de la loi et affermissement de la loi quand l'obstacle est évident, plutôt la loi que la blessure narcissique, et finalement, construction, établissement de la réalité. Bien, maintenant, arrivons-en aux problèmes, aux manifestations. C'était un schéma très rapide, une course-poursuite à travers la psychologie pour situer un petit peu les concepts et la perspective. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la maturité et qu'est-ce que c'est que la maturité dans la Bible ? La maturité, c'est de pouvoir, on pourrait une première définition, manier la réalité comme elle est, sans rien lui ajouter et sans rien lui soustraire. C'est-à-dire, quand vous voyez un danger ou une personne ou une situation, pas l'imaginer plus dramatique ou moins dramatique qu'elle n'est. Et là, nous avons l'exemple du Seigneur lui-même qui a été mis devant des situations difficiles et qui le résolvait avec sérénité et surtout exactement à l'endroit ou avec les difficultés qui leur étaient propres. Vous savez que les problèmes les plus difficiles à résoudre, où on se situe le moins facilement, ce sont les problèmes d'ordre sexuel. Quand quelqu'un va vous poser ses problèmes d'ordre sexuel, ou quand il ne les pose pas, quand vous les connaissez et qu'il voudrait bien que vous les abordiez, mais que vous n'osez pas le faire, vous voyez toutes les complications qu'il y a autour. Or, vous avez dans Jean 4, par exemple, le problème de la Samaritaine. On en a parlé, ce problème a été évoqué là, mais je voudrais voir, moi, l'aspect plutôt de maturité que présente le Seigneur en tant qu'homme. Il y a peu d'hommes qui arrivent à la maturité, peu d'humains, et c'est important, d'autant plus important, de montrer qu'en tant qu'homme, il avait cette maturité aussi. Et nous verrons pourquoi, nous expliquons pourquoi. Et quand cette femme lui arrive, il se met à son niveau. On a vu qu'il n'avait pas peur, d'une part, de lui parler comme étrangère, mais ce qui me paraît plus significatif, c'est qu'il peut, malgré les tabous de l'époque et l'éducation de l'époque, l'aborder, c'est une femme qu'il rencontre seule, et ça ne gêne pas de lui parler, et elle, ça ne le gêne pas, il la met suffisamment à l'aise pour qu'elle lui puisse lui parler. Bien évidemment, son problème profond ne ressort pas tout de suite. C'est quand il lui dit, va chercher ton mari, il dit, j'ai pas de mari. Il dit, oui, je sais, tu as eu ça, mari, celui que tu as en ce moment, c'est pas ton mari. Alors il dit, je vois que tu es un prophète. Finalement, ce que le Seigneur touche là, c'est une sorte d'anarchie sexuelle, enfin une sorte de on ne sait pas ce qu'était sa vie, mais certainement une grande instabilité et certainement quelque chose de l'ordre d'un désir très 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 important, jamais satisfait, qui épuisait son objet sans jamais s'épuiser lui-même, sans être satisfait. Et ce que signifie cette expérience, ce sur quoi le Seigneur met le doigt, c'est pas tellement sa sexualité anarchique que le fait que cette sexualité n'arrivait jamais à combler un désir plus profond. C'était, comme dirait Alquier, le désir d'éternité. Or justement, elle sent ça et tout de suite elle interpose un écran religieux en disant oh oui je sais bien, il y en a qui disent que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer, d'autres qui disent que c'est sur cette montagne, comment voulez-vous qu'on s'y retrouve, comment veux-tu qu'on s'y retrouve dans tout ça? Alors il lui dit bon, il règle cette première question et puis il lui parle d'autre chose, il lui parle de son désir et de son désir insatisfait et il lui annonce l'évangile parce qu'il était placé pour le faire, l'évangile c'était lui, c'est de moi que tu as besoin. Ce qu'il y a d'intéressant, à mon avis, ce que je veux souligner dans cet exemple-là, qui peut s'étudier de bien d'autres façons, c'est l'aisance du Seigneur à traiter ce problème et à le mettre strictement au niveau où il est et cachant autre chose, un problème plus profond. Parce qu'il est bien évident qu'une sexualité anarchique à l'âge adulte ne fait que recouvrir d'autres problèmes, parce qu'avant la sexualité, les désordres étaient déjà là. Et c'est un phénomène qu'on trouve, qu'on nous connaissons fréquemment, et qui permet les cures et psychologiques, c'est le phénomène de répétition. À chaque stade, sous différentes métaphores, différents avatars, on répète les mêmes désirs, les mêmes problèmes et les mêmes insatisfactions. La deuxième situation où il intervient, c'est avec la femme adultère. La femme adultère, on avait un peu abordé ce problème du désir sexuel, de la projection sexuelle avec la prohibition de l'inceste avec les fils de Jacob. Le Seigneur Jésus, on pourrait estimer que, étant donné sa vie, aurait pu avoir une sévérité particulière pour les gens qui, eux, vivaient tranquillement dans la vie sans avoir de difficultés, alors que lui était quotidiennement du matin au soir aux affaires de son père, et il n'avait pas le temps de jouir calmement, tranquillement des affections humaines. Il pouvait en jouir, mais pas en s'installant dedans. Et chez un homme ordinaire, immature, cette attitude-là aurait entraîné une jalousie ou un excès ou de sévérité ou un excès d'indulgence. C'est comme ça que se montre un déséquilibre dans l'appréciation de la réalité. Or là, nous voyons une fois de plus son attitude exemplaire où il dit à la femme, il ne dit rien d'abord, il signifie simplement aux accusateurs de cette femme qu'ils ont des problèmes. Il ne leur dit pas, il leur parle de problèmes que celui qui n'a pas de péché. Alors pour un juif, on savait ce que c'était un péché, c'était vous êtes un péché contre la loi, que la loi était unitaire, et il savait aussi d'une certaine façon que le désir est très proche du péché. Et quand il parle de péché, il parlait d'adultère, autrement dit que celui qui n'a jamais pensé à ça, ou qui n'est jamais près de ce problème, lui jette la pierre. Il est dit qu'ils s'en allèrent tous, de plus âgé jusqu'au plus grand. Et plus on est vieux, plus on a peut-être de fantasmes de ce sujet. Les choses s'accumulent et se deviennent peut-être plus claires. Ils s'en vont tous. Et le Seigneur lui dit, où sont-ils tes accusateurs? Il dit, il n'y en a pas, il n'y en a plus. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Parce que son problème, ce n'était pas l'adultère en tant que tel, en tant que crime sexuel. C'était un problème beaucoup plus profond. C'était celui de sa relation avec Dieu. Il dit, c'est le pardon, il lui donne quelque chose, il la libère. Il lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va dorénavant, ne pêche plus. Et là, une fois de plus, nous remarquons avec quelle simplicité et quel naturel il peut aborder cette question qui, comme elle ne le gêne pas lui, ne gêne pas aussi son interlocuteur et il peut l'aider. Et il peut lui donner autre chose. Bien sûr, on pourra dire ça s'est passé comme ça parce que le Seigneur Jésus était loin de l'Esprit, était Dieu. Mais je pense que effectivement, on peut imaginer ça. Mais je pense toujours, moi, ces passages, l'Épître aux Hébreux, où il est dit, il a été fait en toutes choses comme nous. Il était de façon, il y a deux passages dans les Hébreux où il dit ça, où il est bien insisté sur le fait qu'il a dû être comme nous pour pouvoir être un fidèle sacrificateur qui puisse compatir aux souffrances de ses frères. C'est dans, vous avez dans Hébreux 4, Hébreux 2, Georges va nous dire ça. D'abord Hébreux 2, 17, le premier. C'est pourquoi il dut en toute chose être rendu semblable à ses frères, afin qu'il fût un miséricordieux et fidèle souverain sacrificateur dans les choses qui concernent Dieu, pour faire propitiation pour les péchés du peuple. Et 4.15. 4.15, il est dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser à nos infirmités, mais nous en avons un qui a été tenté en toute chose, comme nous, à part le péché. Et je pense que ça, c'est une des affirmations qui sont fondamentales. Elle souligne précisément le fait que le Seigneur Jésus est comme nous, et qu'il était, et il explique qu'il était mûr, qu'il était arrivé de maturité. C'est pour ça que nous pouvons lui faire confiance quand nous lui parlons. Il sait de quoi nous lui parlons. Il n'a pas besoin de faire d'efforts, il l'a vécu, il a été là, il a été très proche. C'est pour ça que c'est quand même une grande assurance pour nous. Nous avons le même problème au niveau du désir de pouvoir. La dernière fois, on a vu le désir de puissance, combien ça tenaillait les hommes et comment il était difficile d'y échapper. Ou bien on cherche à prendre un poste de responsabilité. Vous avez dû vivre ça dans les assemblées, les AG du GBU. On ne le dénonce pas parce qu'on est entre chrétiens, on est en principe humble et modeste, mais tout le monde subsume, sans le dire, ceux qui ont envie de commander, ceux qui ont envie du pouvoir, parce qu'on sent que ça leur fait du bien, ça leur fait plaisir. Puis comme on est gentil, on ne veut pas leur enlever ce plaisir. Puis en plus, comme c'est un petit peu une corvée, ben personne ne les empêche. Mais enfin, on sait très bien, on sent très bien que dans ce désir de servir de cette façon-là, il y a aussi une petite prime au plaisir qui est celui de commander, de prendre le pouvoir. Ou bien, on a tellement envie de prendre le pouvoir, mais on a si peur de le faire qu'on ne le prend jamais. Alors ça, c'est l'inverse, on se cache. Vous voyez comment le même désir peut aboutir soit à se pousser en avant, soit à ne jamais le faire, parce qu'on a trop de reproches à faire à ceux qui le font. C'est compliqué. Et la même tentation de pouvoir a été plusieurs fois au niveau du Seigneur Jésus. Je prendrai seulement l'exemple dans le jardin, dans le à Gethsémané. Il a dit que son père, il commandait 12 légions d'anges, il aurait pu disposer de 12 légions d'anges s'il l'avait voulu, pour se défendre. Il avait ce pouvoir, authentiquement. Et quand on a voulu le faire roi aussi, il a eu la même tentation. Il n'a pas succombé à ça. Et quand il s'est mis au pied de ses disciples, dans le chapitre 13 de Jean, vous lirez le premier verset, il dit, sachant que toutes choses lui étaient mises entre les mains, c'est à ce moment-là qu'il lave les pieds de ses disciples. Il le met directement en contraste avec ce qu'il va faire. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Et au verset 3, sachant que le Père lui avait mis toutes choses entre les mains et qu'il était venu de Dieu et s'en allait à Dieu. C'est en pleine connaissance de cause, en pleine connaissance de son pouvoir qu'il a fait ça. Il n'a pas oublié un instant qu'il était roi et maître, mais il l'a fait justement en le sachant. Et le fait d'avoir le pouvoir ne l'empêchait pas en même temps d'aimer très tendrement ses disciples, avec toujours le même soin. Il n'y avait pas d'opposition, il n'y avait pas de conflit entre toutes ces notions. Il était à l'aise dans ces situations-là. Et nous avons bien sûr le passage classique de Philippiens 3, où il n'a pas cherché comme un objet à dérober, à s'approprier d'être égal à Dieu. Philippiens 2. Nous avons vu aussi le problème de l'argent. la dernière fois comme moyen pour colmater tout ce qui peut être signe du désir. Une fois, nous voyons ça dans Matthieu 17, verset 27, je crois, quand le Seigneur Jésus a été obligé de payer l'impôt du temple. Et il lui a demandé à Pierre, tu vois, ce que moi je pourrais très bien m'en dispenser, puisque Pierre le savait, était d'accord. Il dit, bon, va, jette une ligne, prends un poisson, puis il y a un stataire. Mais lui n'avait pas d'argent sur lui. Et il pouvait de temps en temps trouver quand il en avait besoin, mais il n'en avait pas besoin. Bien, nous voyons là, et ça c'est à mon avis, c'est important de le noter, on n'y fait pas assez attention. Un modèle de maturité d'homme, le Seigneur en tant qu'homme, pas en tant que Dieu, en tant qu'homme. Et c'est pour ça que dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux 5, et dans Éphésiens 4, nous avons le Seigneur Jésus est donné comme modèle. S'il était, c'était en tant que Dieu, il ne nous serait pas donné en tant que modèle comme homme. Dans Éphésiens 4:13, dit jusqu'à ce que nous soyons parvenus tous à l'unité de la foi et à l'état d'homme fait à la mesure de la stature de la plénitude du Christ. Ce n'est pas un modèle divin qui nous est présenté là, c'est un homme mûr, un homme de la plénitude du Christ, la stature de la plénitude du Christ. Et c'est la même pensée que nous avons dans un autre passage, mais il suffit d'en avoir un. Maintenant, une fois que nous avons ce volet de la maturité, voyons où se situe notre problématique. Pourquoi est-ce que nous restons enfants et quand est-ce que la Bible parle d'enfants? Et ça, c'est très intéressant. D'abord, quelles sont les caractéristiques du comportement de l'enfant? Quels sont son caractère? Dans Éphésiens 4:14, vous voyez que l'enfant est caractérisé par le fait qu'il est ballotté et influençable. Lisez-vous, ça vous ennuie de lire. Éphésiens 4:14.
Afin que nous ne soyons plus de petits-enfants ballottés et emportés ça et là par tout vent de doctrine dans la tromperie des hommes, dans leur habileté à user des voies détournées pour égarer. En vrai dans l'amour, nous croissions en toutes choses jusqu'à lui qui est le chef.
Une des caractéristiques de l'enfant, c'est de manquer de fermeté, d'être influençable, d'être amené à droite et à gauche, d'être incapable de rester à une idée, d'être resté ferme. Nous avons la même pensée, la même notion. Dans Hébreux 5, il dit « La nourriture solide est pour les hommes faits, qui par le fait de l'habitude ont les sens exercés à discerner le bien et le mal. » Il ne s'agit pas cette fois de porter un jugement en bien ou en mal, mais à discerner où est le bien et le mal par rapport à ce qu'ils ont appris de Jésus-Christ. Ce n'est pas du tout la même chose que le sens du jugement qu'on avait vu chez Adam et Ève. Je le rappelle une seconde, il y a souvent un faux sens sur ce qu'est cette connaissance du bien et du mal. Cette connaissance du bien et du mal, c'est la possibilité de porter sur tous les objets un jugement qu'il est bien ou qu'il est mal, mais sans pouvoir affirmer que ce jugement est juste. Ça veut dire que toutes les fois qu'on manie quelque chose, on pourra décréter que c'est bien ou que c'est mal par rapport à soi, mais on aura de la difficulté à dire absolument que c'est bien ou mal. C'est pour ça que les notions morales ou les notions de conscience sont si variables d'une culture à l'autre. Ce n'est pas du tout étonnant, parce qu'il n'y a pas ce passage-là, ou cette notion-là ne comporte pas de normes. C'est simplement une possibilité d'exercer une fonction. Dans 1 Corinthiens 13:11, vous avez un autre aspect de la connaissance de l'enfant. C'est toujours une connaissance embryonnaire, limitée. Il leur dit, ne soyez pas 1 Corinthiens 13:11 et 14:20.
Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Quand je suis devenu homme, j'en ai fini avec ce qui était de l'enfant.
Tiens, et 14-20.
Frères, ne soyez pas des enfants dans vos entendements, mais pour la malice, soyez de petits enfants. Mais dans vos entendements, soyez des hommes faits.
Vous voyez, là, c'est un enfant a une incapacité à avoir une connaissance suffisamment générale, suffisamment synthétique. Il ne peut avoir qu'une connaissance parcellaire, et ses jugements s'en ressentent. Maintenant, dans Matthieu 11, un caractère aussi qui me paraît important, c'est le caractère, les enfants sont boudeurs. Et ça, on voit souvent combien les chrétiens le sont. Hein. Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous n'êtes pas lamentés. Il dit, cette génération est semblable à de petits enfants assis sur les marchés. Vous voyez, là, vous avez le tableau de ce que c'est qu'un enfant. Et là, on est étonné, on peut être étonné à juste titre, de ce que des chrétiens qui, en principe, sont appelés à la maturité, à une stature de la connaissance de Christ, se comportent strictement comme des enfants, c'est clair. Et là, dans Jean 24, le Seigneur Jésus, d'ailleurs deux fois dans l'évangile de Jean, il emploie l'expression « enfant ». Et toutes les fois, ce sont des occasions où les disciples se comportent effectivement comme tels. Dans Jean 13 et dans Jean 24. C'est pas de Jean 24 ? 21, pardon. Vous vous souvenez, c'est quand le Seigneur est ressuscité, il est pour l'instant absent, les disciples sont seuls, ils ne savent pas quoi faire, ils sont désemparés. Et puis Pierre a une idée, il dit bien, si on allait à la pêche. Alors ils se mettent à... Ben oui, c'était d'abord, ça les rassurait, d'abord ça les occupait, quand on est angoissé, il faut toujours faire quelque chose. Et ils partent à plusieurs, en plus plus on est ensemble, moins on a peur. Alors il recrute ses anciens compagnons qui étaient des pêcheurs expérimentés et je crois qu'autant que je sache, ils doivent partir à 7 ou 8. Et puis il est dit qu'ils sortirent et montèrent dans la nacelle, dans la barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. C'est une tentative, là de nouveau, de colmater leur angoisse, ils ne prirent rien. Et le matin venant, Jésus se tint sur le rivage et Jésus leur dit, « Enfants, avez-vous quelque chose à manger ? » Ils répondirent, non. Et ils leur dirent, jetez le filet du côté droit de la nacelle et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient le tirer à cause de la multitude des poissons. Ce disciple donc que le Seigneur aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et au verset 9, quand ils furent descendus à terre, ils voient là de la braise et du poisson mis dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Le Seigneur stigmatise ici une expérience qui est typique pour nous, c'est que au moment d'angoisse, on essaie d'entreprendre, de faire une petite entreprise seule, ou même avec des frères à plusieurs. Vous voyez, on remplace l'attente ou la prière par l'activité. Le résultat, quand on fait quelque chose pour Dieu, c'est zéro. Ils ne prirent rien. Et c'était une expérience qu'il fallait qu'ils fassent avant de retrouver le Seigneur. Et le Seigneur les attend sur le bord, il le voit, il leur pose la question fondamentale, il leur dit, avez-vous quelque chose à manger ? Et là c'est très intéressant parce que nous reprendrons ce thème un peu plus loin sur le rôle de la nourriture à ce niveau, quand on est à ce niveau. Il leur dit, avez-vous quelque chose à manger ? Une fois de plus ils disent, non. Rien. Alors il leur donne des indications. Cette fois-ci, ça se passe bien parce qu'il est là, il dirige les opérations et les filets sont pleins. Il les ramène au bord. Alors si l'histoire avait été composée par des hommes, on pourrait imaginer que le Seigneur les félicite, bien apportez vos poissons, maintenant on va faire un repas. Mais pas du tout. Quand ils arrivent au bord, ils s'aperçoivent qu'il y a déjà des poissons là. Autrement dit, le Seigneur n'a pas besoin de ce qu'on lui apporte. Il leur signifie que lui peut les nourrir. Il nous attend avec tout ce qu'il faut pour nous. C'est comme ça qu'on traite des enfants. On ne peut pas attendre que des enfants vous apportent à manger. On leur donne à manger. Il y a des moments de la vie, justement, où on ne peut rien faire pour le Seigneur, mais on a besoin que lui nous nourrisse, sinon on ne repartirait pas. Mais nous voyons aussi sa grâce, et bien qu'il aurait pu les nourrir intégralement, il leur dit de participer, il dit apportez quelques-uns des poissons que vous avez pêchés. Et là vous voyez cette récupération narcissique après la honte qu'ils auraient pu avoir, d'une part de partir seul, de n'avoir rien pris, de ne pas être des pêcheurs compétents, c'était arrivé deux fois à Saint-Pierre, d'être pris en flagrant délit, de ne pas être compétent dans son métier. Il n'a pas aimé. Et justement, pour lui montrer, pour récupérer ça, pour le reconstruire, le Seigneur demande à ses disciples de lui apporter un petit peu du fruit de leur travail. Il leur signifie qu'ils ont été capables de faire quelque chose. Ils ont travaillé avec lui. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut comprendre cette parabole où il dit à la fin des jours, « Bien bon et fidèle esclave, tu étais fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. » C'est là la félicitation. Il associe ses ouvriers à son travail et au résultat. Mais ce qui est intéressant dans ce point-là, et qui nous permettra d'enchaîner sur le suivant, sur l'expérience de base, c'est qu'à certains moments de la vie, quand on est à ce niveau d'enfant, il faut le savoir, on ne peut rien faire, on peut simplement être porté et être nourri. On pourrait penser qu'on quitte l'enfance et après c'est fini. En fait, on revient. C'est aussi un enseignement de ce passage. C'est ce qu'on appelle la régression. Les disciples avaient été avancés et puis les voilà, c'est un exemple de régression. La régression, c'est aussi autre chose en psychologie. Mais ils avaient avancé avec le Seigneur, dans la connaissance du Seigneur. Ils étaient arrivés à un certain nombre d'expériences et puis là, ils sont devant une situation où il faut qu'ils attendent. Et ils ne peuvent pas attendre parce que l'attente est trop lourde à assumer pour eux. D'où cette espèce d'entreprise à tout prix. Une entreprise parfaitement honorable par ailleurs. D'une part, c'était leur métier, et puis ensuite, il fallait bien qu'ils mangent. Enfin, tout se pouvait se justifier. Mais c'était quand même une régression aux yeux du Seigneur, et c'est pour ça qu'il les appelle enfants. Et c'est important parce que le mot est employé que deux fois dans l'évangile de Jean. L'autre fois est aussi très symptomatique, c'est dans le chapitre 13. C'était, vous savez très bien que l'évangile de Jean, c'est le seul évangile qui ne parle pas directement d'institution de la scène, du repas du Seigneur. Mais ce qui a plus frappé Jean à ce moment-là, c'était le fait qu'au lieu d'instituer le souvenir de sa mort, le Seigneur leur a lavé les pieds. Ça l'a tellement impressionné qu'il a passé sous silence la scène, mais il a parlé de ça. Et nous savons aussi, on en a parlé plusieurs fois de ça, que cette dernière Pâque, ou ce premier repas souvenir, s'est passé dans de très mauvaises conditions. Il y avait une atmosphère de tension, une atmosphère d'irritation les uns envers les autres. Juste avant, en montant à Bethphagé, la mère de Jean et de Jacques était intervenue pour essayer de bien les placer dans l'héritage possible. Ce matin, on en parlait incidemment, on en parlait de distribution des portefeuilles. Quand le Seigneur serait arrivé à la tête du gouvernement, ils pensaient tous hériter d'un portefeuille, enfin d'un bon poste en tout cas. Et c'est à ça qu'ils pensaient, eux. Alors que, justement, ces deux disciples qui demandaient des postes, ou directement dans un évangile, ou indirectement par l'intermédiaire de leur mère, ils avaient été sur le mont de la Transfiguration. Et au moment où Moïse a vu Moïse et Élie, il est dit que, ça nous est rapporté, Moïse et Élie parlaient de la mort du Seigneur Jésus. Ils savaient très bien qu'à partir de ce moment-là, c'était de sa mort qu'il était question. Et eux s'intéressaient à leurs intérêts politiques. Et donc le Seigneur est obligé de remettre les choses en place et de prendre la place que personne ne voulait prendre en affirmant d'abord son autorité, sa royauté et son amour. Et il leur donne, je vous ai donné un exemple. Et après il leur parle, non seulement il donne l'exemple, parce qu'un niveau inconscient ce n'est pas les paroles qui comptent, c'est de voir, de toucher, de sentir, c'est le premier langage de la vie, et ses disciples avaient besoin de ça, il faut des actes concrets quelquefois. Et après, il leur explique pour un niveau ultérieur, le niveau de l'esprit, le niveau de l'intelligence. Et c'est là, de nouveau, qu'il leur emploie le mot « enfant ». C'est dans le chapitre 13, au verset 38. Et après leur avoir expliqué ce qu'il a fait, pourquoi il l'a fait, il leur dit « enfant, je suis encore pour un peu de temps avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, là où moi je vais, vous ne pouvez venir. » Ça veut dire en clair, regardez, il leur a dit dans Luc, « j'ai fort désiré de manger cette Pâque avant que je souffre. » Et là, il leur dit « enfant, je suis de pour peu de temps avec vous. » C'est une façon de leur dire « pourquoi en profitez-vous pas ? Pourquoi vous disputez-vous entre vous ? Je suis pour peu de temps avec vous. » Il les traite d'enfants. D'enfants de ne pas être capables d'apprécier dans sa réalité ce qui se passe actuellement sous leurs yeux. Quand nous faisons la même chose, que nous déplaçons les problèmes, le Seigneur ne peut pas nous dire autre chose que « enfant ». Nous sommes revenus à ce stade où nous, de la dispute, au stade de l'agressivité, nous sommes bloqués dans l'amertume, et le Seigneur ne peut pas faire autre chose que nous appeler des enfants. Et ces deux aspects de la patience du Seigneur, son aspect de récupération, qui a été vécu par Pierre, qui y était, qui a été témoin de ça, et c'est le fait qu'on ne peut repartir qu'après avoir fait ce qu'un psychologue américain, Erickson, appellera une expérience de confiance de base. Et Pierre le sait très bien parce qu'il a fait cette expérience-là. Sa foi est solide parce qu'il nous dit dans le chapitre 2 de sa première épître au verset 4, « Si toutefois vous avez goûté que le Seigneur est bon ». Autrement dit, la foi part ou repart d'une expérience de la bonté du Seigneur. Et c'est là-dessus qu'on commence. Une vie heureuse, une vie épanouie, normale, sur le plan psychologique, et part toujours d'une bonne expérience avec la mère, avoir une bonne mère, avoir eu confiance à la mère. Et là, nous voyons le sens de ce verset dans le psaume 22, « Tu m'as donné confiance dans le sein de ma mère ». C'est à toi que je fus remis dès la naissance. Prophétiquement, le Seigneur affirme qu'il a eu une bonne expérience au départ de sa vie. Et je pense que là, on peut faire le rapprochement avec la vie chrétienne. Non seulement on prêche l'Évangile, mais là, c'est une suggestion. Je pense qu'au début de la vie chrétienne, il faut faire une bonne expérience. Une bonne expérience dans l'Église, une bonne expérience avec les autres et une bonne expérience avec Dieu. Pour faire une bonne expérience avec Dieu, il faut la faire avec ses frères, avec les autres. Et ça, c'est ce que j'appellerais l'expérience de base. En analogie, je vous dis, avec ce qu'on a vu, maintenant, on sait être important dans le développement psychologique. Maintenant, pour grandir, nous l'avons vu dans une description des stades, il faut des modèles d'identification. Et c'est pour ça, là, on comprend pourquoi, dans les évangiles, le Seigneur est présenté agissant en tant que personne. Les évangiles ne sont jamais présentés comme un catalogue de prescriptions ou de conseils ou d'histoires. Mais c'est le Seigneur Jésus nous est présenté soigneusement à travers un certain nombre d'événements de sa vie. Or, quand nous réfléchissons à la façon dont un enfant grandit, il grandit en s'identifiant, en faisant comme son parent. Vous savez très bien qu'un petit enfant, quand son père quitte ses chaussures, les enfile tout de suite, ou il prend un balai comme sa mère, mais il fait comme quelqu'un d'autre. Et une des dimension même de l'éducation, c'est de pouvoir s'identifier à quelqu'un. Alors, dans un premier temps, les esprits nous présentent le Seigneur dans sa personne pour que nous puissions nous identifier à lui à travers différentes péripéties de sa vie, de sa rencontre avec les autres hommes. Mais aussi, le Seigneur nous a donné nos frères. C'est là où il est important de refléter quand même un petit peu quelque chose de lui. En fait, d'évangélisation. On amène des personnes à la connaissance de Jésus-Christ, on les amène à l'Église. Il faudrait là qu'ils voient des gens qui vaillent la peine qu'on s'identifie à eux, qu'on puisse s'identifier à des gens. C'est là où je pense qu'il est important, ou que prend tout son sens le sermon sur la montagne, d'être comme lui pour que des autres soient comme nous. Je vous dis pas que je vous dis ça parce que je le pense pour moi. Je ne vous donne pas un conseil ex cathedra, bien qu'il y ait une différence de hauteur, au moins en mètres ou en centimètres. Mais je pense nous sommes placés devant ça. Et c'est pour ça que Paul dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Jésus-Christ ». C'est ça l'identification, et c'est une dimension importante de la croissance. Et plus généralement, le Seigneur dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Et maintenant, après l'identification, nous arrivons à un autre concept, c'est celui d'un modèle intériorisé. Il ne faut pas seulement que le modèle reste toujours à l'extérieur. Vous savez qu'un des drames des éducateurs, nous avons tous vu ça, c'est de faire intérioriser aux adolescents les règles ou les personnes. Leur rêve, vous avez vu, ceux qui ont eu des enfants le savent, c'est que de laisser le plus longtemps possible la règle, les lois entre les mains des parents. Alors ils attendent que les parents commandent, c'est bien confortable, parce que quand les parents ne sont pas là, ils peuvent se passer de règles et faire ce qu'ils ont envie de faire. Ils fonctionnent sur un autre modèle. Ils n'ont pas intériorisé les règles. Elles sont toujours un petit peu à l'extérieur d'eux. Et les enfants instables, ou les enfants caractériels, ou les enfants délinquants, sont des gens qui n'ont jamais intériorisé les règles. Elles sont toujours ailleurs, chez quelqu'un d'autre, sur quelqu'un d'autre, ou dans un livre. Et là, je crois qu'il est important aussi de remarquer que tant que pour nous, la Bible est une série de commandements, à l'extérieur de nous-mêmes, on est toujours à un niveau infantile, parce qu'il est bien évident que quand nous prenons une certaine distance vis-à-vis de la Bible, ou vis-à-vis de l'Église, ou vis-à-vis de l'endroit où on parle de Jésus-Christ, nous sommes livrés à ce qui nous fait le plus plaisir, c'est-à-dire une absence de loi, donc au principe de plaisir et aux pulsions, pour garder un modèle freudien. Il faut donc que non seulement ces commandements soient entendus, mais ensuite qu'ils soient intériorisés. Pour qu'ils soient intériorisés, il faut qu'ils aient été vécus comme bons. D'où on revient à cette expérience primitive, si toutefois vous avez goûté que le Seigneur est bon. Le commandement lui-même n'est jamais bon. Mais si la personne qu'il donne est bonne, on la prendra avec son commandement, parce que les deux seront bons. Mais le commandement est mauvais si la personne est mauvaise. C'est pour ça aussi qu'on comprend la parole de l'apôtre Paul, dit que Christ habite en vous. Ou Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ces processus d'éducation, dans les conditions de croissance, il y a aussi, toujours dans le droit fil de cette intégration des commandements, il y a la libération de la tyrannie. La tyrannie, alors cette fois-ci, il s'agit de la tyrannie des pulsions et de la tyrannie des commandements. Là, j'ouvre une parenthèse et je vais la fermer parce que je m'aperçois que je n'ai pas défini le modèle psychique sur lequel je m'appuie, qui est important, c'est le modèle des instances. Il a été commode d'imaginer la personnalité comme fonctionnant avec trois instances. On appelle le surmoi, le moi et le ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous sommes un composé de pulsions, de vie, etc., une sorte de vie anarchique qui pousse à vivre, si vous voulez. L'instinct de conservation, tout ça, ce sont des pulsions. C'est tout ce qui pousse à la vie. On est un réservoir de pulsions à la naissance et qui essaie de s'appliquer, de se développer tout au long de la vie. Contre ces pulsions qui fonctionnent sur le mode de tout de suite, sur un mode du principe de plaisir, vous avez évidemment toutes les entraves de l'éducation, et les entraves familiales. Non, tu ne dois pas faire ça, tu dois faire plutôt ça. Ce sont toutes les règles familiales, les règles sociales. Ce sera le surmoi qui devient intériorisé. Alors si l'enfant est une sorte de champ de bataille entre ses pulsions et ses interdictions, il n'a pas de personnalité, pas de vie, il n'a pas de moi. Le moi, c'est cette espèce d'instance qui prend ce qu'il y a de bon dans les deux. Et qui est capable d'attendre, qui n'a pas besoin de satisfaire son plaisir tout de suite, ou pour, comme les pulsions le voudraient, ou jamais comme le voudrait l'interdit, mais il trouve un fonctionnement harmonieux entre ce qu'il a très envie de faire et ce qui lui serait interdit de faire. C'est ça le moi. Un moi qui fonctionne de façon harmonieuse. Pour cela, il faut non seulement qu'il arrive à maîtriser les pulsions, mais qu'il soit aussi pas trop inféodé aux règles, aux interdictions, aux tabous. Et c'est dans ce sens-là, je pense, qu'il faut déchiffrer les passages que nous avons dans Jean 8. Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Vous libère ou vous affranchit. Il y a deux passages dans Jean qui traitent de ce problème-là. Jean 8, 32. Puis après, c'est repris un peu plus bas, dans le même chapitre, c'est un problème important. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera, vous affranchira. Vous affranchira à la fois des deux menaces. Et au verset 36, si donc le Fils vous libère, vous affranchit, vous serez réellement libre. S'il s'agit d'une liberté intérieure. Et la dernière libération dont nous avons à être libérés dans vue de la croissance, c'est la mort, la peur de la mort. La mort, c'est une réalité, elle est en plus doublée de la notion de punition. Mourir, c'est un fait biologique, c'est la réalité de la nature humaine, puisque tu es poussière, tu retourneras à la poussière ou à la glaise, peu importe le mot. Mais quand la mort se double d'une culpabilité importante, elle est toujours vécue comme une punition et non pas une réalité. Et là, vous avez toute l'angoisse et tout le drame qui peut empoisonner toute la vie, qui peut empoisonner tout le psychisme. La peur de la mort, non pas comme réalité, une mort avec Dieu, comme Dieu l'a dit, et pour retrouver Jésus-Christ, mais une mort qui est dramatique parce qu'elle est culpabilisée, elle est punition. Et de là aussi, nous avons à être délivrés pour être libres. Et c'est ce que nous avons dans l'Épître aux Romains, je crois, être délivrés de la mort. C'est Hébreux 2.15. Vas-y. 2.15.
Je lis à partir du verset 14. Puis donc, que les enfants ont eu part au sang et à la chair, lui aussi semblablement, y a participé, afin que par la mort, il rendît impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient pendant toute leur vie assujettis à la servitude.
Vous voyez ici la mort qui est toujours comme une menace du matin au soir, d'un bout à l'autre de l'année, ce qui empoisonne la vie. C'est la mort punition. Ce n'est pas la mort réelle, c'est la mort menace. Et dans le même esprit, s'il faut comprendre ce verset de Romains 8, 38, rien ne nous séparera de la mort de Christ, de l'amour de Christ, ni mort, ni vie, ni mort. Bon, nous abordons l'avant-dernier point, qui est celui de l'allure de la croissance. Je pense que cette notion-là se déduit de ce que nous avons vu. Il n'y a pas, ce serait une illusion, de penser que le processus de croissance spirituelle, comme le processus de croissance psychique, c'est un mouvement univoque et irréversible. L'exemple de Jean nous l'a montré, il peut y avoir des retours en arrière. Et ce n'est pas dramatique. Évidemment, le diable peut servir de ce genre d'événement-là pour faire introduire la dépression et le découragement, en disant « tu vois ce que tu vaux, mais finalement tu n'as pas fait de chemin, tu n'as jamais avancé, tu n'es pas capable d'avancer ». C'est ce que quelquefois on dit aux enfants, dans une éducation mal comprise, « tu n'es pas capable de, tu ne sais pas faire ». Et ce genre d'argument plonge l'enfant dans la dépression et le découragement. Et il est dit quelque part, d'ailleurs, dans l'éducation des enfants, ne découragez pas vos enfants, c'est dit. n'irritez pas vos enfants. Donc il ne s'agit pas d'une progression sans possibilité de régression. Il peut aussi exister des fixations. Alors ça, c'est le drame. Toutes les fois qu'un enfant a passé un stade où il a eu beaucoup de plaisir dans sa croissance et qu'il a abordé ensuite un stade où il avait beaucoup moins de plaisir et des difficultés, il a tendance à rester fixé à une période béate de sa vie. Et je crois que là, on peut transposer tout à fait ce concept de fixation dans la vie chrétienne. Si les gens n'évoluent pas, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils se sont sentis bien au moment de leur conversion ou dans les moments qui ont suivi. Ils étaient très entourés, très maternés, ils ont fait des expériences d'élation, etc. Et ils ne bougent plus, parce qu'après, ça devient plus difficile. Il y a des conflits avec les gens. Et pour ces conflits, il faut de nouvelles ressources. Mais ils ne veulent pas affronter ça, parce que c'était mieux comme ça. L'exemple de cette fixation à des moments privilégiés, nous le voyons constamment dans l'histoire des Hébreux en Égypte. Et c'est étonnant d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, comment l'histoire des Hébreux peut être vécue comme la trajectoire même de la psychologie, à un certain niveau. Et enfin, un autre phénomène qui est la rationalisation. La difficulté qu'il y a à reconnaître la réalité telle qu'elle est, surtout au niveau des faiblesses ou des difficultés personnelles, et on donne toute une explication d'une situation actuelle qu'on ne veut pas dépasser. On donne toutes de bonnes raisons. Ça s'appelle les rationalisations. Je fais ça pour ça, pour ça, pour ça, cette raison, sans dire que je fais ça parce que ça me fait plaisir ou je fais ça parce que je suis agressif. Autrement dit, c'est un refus de constater la vie des pulsions et vous avez une rationalisation invraisemblable. Alors tout ça, vous voyez, tous ces concepts-là de fixation, de régression, d'identification, de rationalisation qui s'appliquent à la vie psychique peuvent nous éclairer dans ce qui se passe aussi dans la vie spirituelle et peuvent nous aider à le nommer, à le comprendre. Enfin, dernier point, une des conditions, les conditions de la croissance, c'est que la croissance, nous l'avons vu pour l'enfant, pour sa vie psychique, c'est la même chose pour la vie spirituelle, ça se passe dans une relation au moins à deux, voire à trois. D'abord, nous avons vu que la relation à une personne était nécessaire pour l'identification. Et en plus, elle est nécessaire aussi pour établir une relation de confiance où la personne peut se construire. Bon, l'intervention du tiers, comme on dit, est aussi importante dans la restauration des choses qui ne vont pas, ce que nous appelons en jargon la psychothérapie. La psychothérapie, vous savez, ce n'est pas si original que ça. Nous avons de multiples cas de ça dans la Bible. La foi où une troisième personne, une autre personne, a aidé la personne en difficulté à se remettre sur pied. C'est le cas de Nathan avec David. C'est le cas d'Ésaïe avec Ézéchias. C'est bien dans la vie, quand on peut trouver quelqu'un, on peut mettre la main sur quelqu'un, qui sache prier, qui puisse prier avec vous. Et qui puisse vous dire des choses que d'autres ne peuvent pas vous dire. Et vous, dans le chapitre 33 de Job, vous avez la même chose. Vous avez une vraie psychothérapie au niveau de la dépression. Je m'excuse de ce jargon. Je l'emploie à dessein parce que c'est devenu un langage moderne. Ce n'est pas un mot qui est nouveau. C'est l'habillement nouveau d'une réalité profonde et d'une réalité ancienne. Dans Job, vous voyez ce personnage d'Élihu, et il est dit, il faut que quelqu'un, Job 33, à partir du verset 16, 17, bon, il ouvre l'homme, c'est-à-dire Dieu, l'oreille aux hommes, et celle l'instruction qu'il leur donne pour détourner l'homme de ce qu'il fait. Il préserve son âme de la fosse, et ça évite de se jeter sur l'épée, c'est-à-dire du suicide. Il est châtié aussi sur son lit par la douleur, et la lutte de ses os est continuelle, et sa vie prend des goûts le pain, et son âme, l'aliment qu'il aimait, sa chair est consumée, ne se voit plus, et ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. C'est la dépression avec refus alimentaire, etc. Enfin, tout le symptôme de la dépression grave. Et s'il y a pour lui un messager, un interprète, un entre mille, pour montrer à l'homme ce qui, pour lui, est la droiture, il lui fera grâce, il dira « Délivre-le, pour qu'il ne descende pas dans la fosse, j'ai trouvé une propitiation. » Alors, sa chair aura plus de fraîcheur que dans l'enfance, il reviendra au jour de sa jeunesse. Vous voyez la nécessité de l'intervention d'une autre personne pour aider Job à sortir de sa dépression. Non seulement ça s'est fait pour lui, mais il le dit, il le constate. Il faut non seulement le vivre, mais aussi le reconnaître. C'est souvent utile et constructif. Cette intervention du frère, nous le voyons aussi en cas de maladie dans Jacques. Bon, je ne reviens pas là-dessus. Et la nécessité de compagnon, nous le voyons aussi souligné par Jésus lui-même. Quand il prend ses disciples, il est dit « pour être avec lui ». Et il les prend aussi pour prier. Il leur dit « vous n'avez pas pu prier avec moi une heure, une seule heure ». Il les prend avec lui pour les moments difficiles. Donc il est important d'avoir des compagnons, des frères, des amis. Et ça, c'est aussi une dimension, non seulement de la croissance, mais également de la récupération. Bien, mais je m'arrêterai là, il y aura encore des choses à dire, c'est assez schématique. Nous voyons en conclusion que, un, la croissance, soit psychique, soit spirituelle, part d'une expérience, d'une bonne expérience. Pensez à ce verset de 1 Pierre 2, « Si toutefois vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Donc, il faut la faire. Le Seigneur s'arrange à ce qu'on la fasse. Il ne faut pas empêcher les âmes de la faire. Il faudra au moins aller dans ce sens-là, et pas en sens inverse. Deuxièmement, il convient qu'il s'opère une prise de conscience de la peur, et non de la colbater, en prendre conscience, pour pouvoir changer et avancer. Et troisièmement, il convient d'accroître les possibilités d'identification pour la croissance spirituelle, d'identification en présentant une personne vivante. Hein. On ne présente pas des mots, il faut présenter vivant, une personne vivante, une parole vivante et un Christ vivant. Je m'arrêterai là.
Y a un point que je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous pourriez le reprendre, s'il vous plaît? C'est au niveau du modèle des instances. Quand vous avez parlé de la libération de la tyrannie, vous avez parlé du modèle des instances avec le surmoi, le moi, le ça.
Oui.
Ça n'a pas été clair. J'ai pas bien compris.
Oui,
là.
Oui, ben j'aurais dû le dire au début. Je m'en excuse, ça m'est passé de l'idée. Puis ça, si je ne l'avais pas dit, ça aurait été encore pire. En fait, Freud est obligé d'élaborer ce modèle. En allemand, c'est... qu'est-ce que c'est ce super ich, le ich, et le das id. Le ça, c'est id. En anglais, c'est super ego, ego and id. C'est la même chose. C'est ce qu'on appelle, ça appartient à la deuxième topique. Freud a été obligé de l'élaborer pour rendre compte de la structure de la personne, du fonctionnement de la structure de la personne, pour montrer qu'il y avait d'une part une intégration de la culture, autrement dit de l'interdiction des parents, et d'autre part tout ce réservoir pulsionnel dont on héritait à la naissance, de par la nature même d'homme, qui est toutes les pulsions qui après vont plus ou moins s'habiller, plus ou moins se développer pour conduire aux adaptations diverses le long de la vie. Et entre les deux, il y a cette espèce de personnage qui est à l'origine de la personne, de la personnalité, qui est une sorte de synthèse entre les obligations sociales et les obligations qui viennent de l'intérieur. En sorte que la personnalité est constamment menacée par ses pulsions, par ses désirs, en particulier ses pulsions libidales, pulsions agressives, qui, elles, de par leur nature, veulent se décharger totalement et tout de suite, et les interdictions sociales qui retardent ces réalisations de façon à ce que l'individu s'adapte à la société et se réalise en tant qu'être conforme au modèle que lui présente la société de son temps, de son entourage.
Pourriez-vous redonner la définition de la réalité, s'il vous plaît ?
La réalité, ça n'existe pas. C'est un thème critique. La réalité, c'est tout ce qui empêche l'individu de filer dans ses fantasmes, dans son petit monde intérieur. C'est l'existence de l'autre avec ses désirs, avec ses besoins. C'est beaucoup plus général que le monde matériel. La réalité pour un enfant qui commence à marcher, ça peut être le coin d'une armoire auquel il se bute, ça peut être un pied de table, ça peut être le sol glissant, ça peut être le froid, le chaud, mais c'est aussi les interdictions ou l'absence de sa mère. Et ça peut être aussi la faim. C'est tout ce qui se passe au niveau de son biologique dont il prend conscience et qui ne gratifie pas indéfiniment cette espèce de plaisir narcissique qu'il voudrait s'octroyer.
Vous avez évoqué seulement, vous n'avez pas réellement défini un problème qui, je crois, est important dans la croissance. C'est aussi bien au niveau de l'enfant, la prise de conscience de ce qu'il est et qu'il existe en tant qu'enfant, et la prise de conscience de sa propre personnalité. Et je crois que c'est un point qui est très important, que, en tant que dans la croissance, le fait de prendre conscience qu'on existe et qu'on est quelqu'un, pour pouvoir établir une relation, sinon cette relation est impossible. Et je pense qu'au niveau de la foi, ça se pose aussi, et peut-être pas de façon aussi simple, aussi claire, de savoir qu'on existe en tant qu'être spirituel, et ainsi de pouvoir établir des relations avec
Oui, je Dieu. Pense que ce mode d'identité existe à deux niveaux. On pourrait donner des exemples de ça, on les a vus d'ailleurs. La personne se vit comme personne dans la mesure où elle se sait capable de faire quelque chose. Elle se vit comme agent. Ça, c'est une constatation. Je suis capable de faire quelque chose. C'est une affirmation du narcissisme. Et le deuxième aspect, c'est j'ai une valeur pour quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un m'aime. C'est là où l'expérience primitive est importante. Je suis aimé. Je suis aimé par quelqu'un. Si je suis aimé, c'est que je vaux quelque chose. Si je ne suis pas aimé, si je suis à distance, c'est que je ne vaux rien. Si on me rejette parce que je suis méchant, c'est que ma méchanceté est dangereuse. C'est donc que je suis très dangereux, je peux détruire. Je ferais mieux de m'isoler et je ne vaux rien. Alors on peut se vivre comme ne rien valoir, se vivre comme étant dangereux, se vivre comme étant incapable de faire des choses, vous voyez, des négations de l'être, de la personnalité en tant qu'être autonome.
Je voudrais savoir comment accroître les possibilités d'identification.
Je ne pense pas qu'on puisse accroître les possibilités d'identification. On peut multiplier les modèles. Parce qu'il est toujours difficile de s'identifier à une seule personne. On risque de devenir elle-même et de se perdre. C'était le drame d'Hamlet, ça. Il faut avoir plusieurs modèles d'identification. L'expérience montre, par exemple, c'est peut-être plus facile dans une fratrie nombreuse, on peut s'identifier à des frères ou des sœurs aînées qui sont des relais qui facilitent l'identification père à la mère, quelquefois un peu dangereux.
Mais dans la communauté...
Alors, je voudrais ajouter quelque chose au niveau de la notion d'identification. Il y a deux sortes d'identification. Il y a une identification primaire qui est très ambivalente, c'est se mettre, être comme quelqu'un pour se mettre à sa place et finalement la supprimer. Ça, c'est l'identification primaire. Et il y a une autre identification plus constructive qui dérive de la première, qui est celle d'être comme un modèle aimé, mais sans le remplacer. C'est autrement dit, cette deuxième identification n'exclut pas son objet comme la première.
Mais dans la communauté chrétienne, cette identification, est-ce que vous ne pensez pas qu'elle peut être dangereuse dans la mesure où la personne à laquelle on s'identifie peut éventuellement remplacer Dieu qui finalement est...
Oui, mais je pense que là, précisément, touche la problématique de l'identification secondaire et l'identification primaire. Évidemment, ce serait dangereux de s'identifier à une seule personne.
On peut s'identifier à plusieurs. Et l'identification secondaire a cette caractéristique d'être beaucoup plus souple, plus labile, plus nuancée que la première.
C'est pas une question, c'est un éclaircissement sur la libération de la tyrannie, des pulsions et des commandements.
Oui.
Et en particulier avec le verset « Si le Fils vous libère, vous serez réellement libéré ».
Oui. C'est les éclaircissements sur la libération de la tyrannie. La tyrannie, la double tyrannie des pulsions ou du surmoi, c'est-à-dire des interdictions. Alors cette double libération, c'est une... Pour en être libéré, là, il y a tout un processus. C'est que d'une part, les pulsions ne sont pas si dangereuses. Quand elles paraissent dangereuses, c'est qu'elles sont restées à niveau infantile et elles ont l'air disproportionnées au moi. Mais quand elles sont remises dans la vraie perspective d'une moi adulte, à ce moment-là, elles perdent de leur aspect redoutable et elles deviennent tolérables, avec un certain nombre de processus de dérivation, de sublimation, de déplacement. Et c'est pour ça que l'oisiveté est si pénible, parce que dans l'activité, on peut aussi déplacer les pulsions et les épuiser. Et la libération du surmoi, c'est la libération de tous les aspects accusateurs que possède la loi, que possède le commandement. Et on le voit très bien, ça, quand on est, quelquefois les chrétiens aussi, mais les non-chrétiens, voient dans la Bible beaucoup, beaucoup d'interdictions. Ils voient un Dieu vengeur, ils entendent la Bible comme des interdictions innombrables, sans voir qu'il y a aussi un aspect propédeutique et un aspect aussi curatif, et que c'est une indication vers un meilleur être que la puissance de l'esprit donne, vers une intégration au niveau de la maturité.
Est-ce que vous avez jamais rencontré quelqu'un qui n'avait aucun sentiment de culpabilité? Est-ce qu'il existe des gens sans aucun sentiment de culpabilité?
Est-ce que vous entendez par sentiment de culpabilité un sentiment effectivement éprouvé ou un sentiment camouflé? Vous voulez dire le vécu des personnes qui ne vivent, qui pensent, qui disent, qui affirment n'avoir aucun sentiment de culpabilité?
Je ne sais, je veux dire quelqu'un qui peut dire je n'ai jamais rien fait de mal, comme ça.
Oui, bien sûr. Les délinquants et les déséquilibrés disent ça, pour la bonne raison qu'ils n'ont pas de surmoi, donc ils sont gênés par rien qui puisse les accuser. Ils se plaignent simplement de recevoir des coups, d'être punis, mais c'est les autres qui les punissent. Mais eux, ils ne se punissent jamais. Tout est bien pour eux, puisqu'ils font ce qu'ils ont envie de faire. On les empêche de le faire, et ils ne sont pas contents, mais ils n'éprouvent jamais de culpabilité.
Mais je crois que c'est important, parce que c'est fondamental pour un chrétien d'avoir un sentiment du péché, je crois.
Oui.
Ah, alors là, des gens qui disent...
touchez à un autre problème. Vous, je pense qu'il ne faut pas confondre le péché et la culpabilité. Il faut bien savoir qu'il n'y a qu'une personne ou deux qui puissent savoir vraiment ce qu'est le péché. C'est Dieu et Jésus-Christ, parce que ça leur a coûté très cher. Nous, on ignore ce que c'est. Ce qu'on connaît, c'est l'autre versant, c'est la culpabilité. C'est-à-dire toute la réfraction de la transgression au niveau de la perte de la relation, au niveau de l'abandon, au niveau de l'isolement, ça on le sent. Mais le péché, on peut dire pratiquement que c'est une révélation de l'esprit après, dans la mesure où on comprend ce qu'a été le sacrifice de Jésus-Christ, c'est lui la mesure du péché. Il n'y en a pas d'autre. Si on pouvait l'appréhender, ce serait... Enfin, je ne sais pas, ce ne serait pas le péché, ce serait autre chose.